fait, ça me fait penser à quelque chose que j'ai oublié, c'est la partie bilingue du DNA. Le DNA, avant d'exister en français, en fait, elle existe en français que depuis 1922. Avant, c'était une fonctionnalité pas vraiment. Mais même si dès le premier numéro, si vous voulez, ça c'est le premier numéro des DNA, bon, c'est une photocopie, il l'a publié en bilingue. Hein. Il y avait quand même du français, même dans la période de l'annexion. Hein. Mais bon, après, c'était un titre allemand. La version française ne date que de 1920. Hein. Et en oubliant maintenant les faits de guerre, la diffusion en langue allemande, bilingue, était majoritaire jusqu'en 1970. Moi aussi, je sais, le premier que lisaient mes grands-parents à Londres, c'était l'édition bleue, l'édition allemande. Et donc, ensuite, ça a décliné régulièrement, et ça a décliné très fortement, parce que, en fait, c'était directement lié à l'âge des abonnés. C'est les personnes âgées qui gardaient. Alors, notamment, bon, géographiquement, c'est un peu marqué, hein, c'est l'outre-forêt, comme on dit. Hein, il y avait ensuite un petit peu le Korosberg, et il y avait quelques enclaves où la religion protestante était dominante, si vous voulez. Hein. Par exemple, la vallée de Münster, si vous voulez, pendant très longtemps, on a eu un peu significativement une diffusion. Alors justement, je vais en parler, madame. Donc, on a aujourd'hui tous les jours, de toute façon, 17 éditions différentes françaises hein, qui sont géographiques. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous lisez tous les jours un exemplaire des DNA, vous avez 40 ou 50 pages, enfin, c'est toujours par multiple de 4, bon, je vais très vite maintenant, une quarantaine de pages. En fait, nous en produisons 200 toutes les nuits, hein, ce qui correspond aux 17 éditions, hein, puisqu'à partir d'un certain moment, la fin du troisième cahier et le quatrième cahier sont différents selon géographiquement. En plus de ces 17 éditions, jusqu'au 10 janvier, on avait 5 éditions bilingues. Il y en avait d'abord 7, 9, et si on remonte plus en arrière, on avait 11. On a réduit petit à petit parce que ce lectorat diminuait tous les ans très fortement. Hein. On perd à peu près tous les ans 1000 à 2000, si vous voulez, lecteurs. Donc à partir d'un certain moment, on faisait trop d'éditions pour le petit nombre de lecteurs. Et on savait qu'un jour allait arriver le moment où il fallait arrêter. Si oui. Hein. Ou alors on faisait un produit qui est totalement incohérent pour les gens. Alors on a arrêté entièrement la production, donc il n'y a plus d'édition bilingue depuis le 10 janvier. Et en fait, on donne maintenant aux gens qui avaient l'édition bilingue, on donne l'édition française de substitution, et on leur donne tous les jours un produit de 8 pages qui est commun avec notre émilière, l'Alsace, qui fait ensemble, et qui est entièrement en allemand. Donc il y a 8 pages entièrement en allemand. Mais on n'en fait pas la promotion. Seuls ont droit à titre de reconnaissance, si vous voulez, des anciens abonnés de la bilingue qui étaient les plus fidèles, les plus inconditionnels, etc. Par contre, alors petite information si vous ne le savez pas, si vous êtes abonné DNA, vous savez que vous avez accès, je ne sais pas si vous êtes équipé, j'espère, vous avez accès à l'Internet. Et sur Internet, pour ceux qui savent le faire, sinon demandez à vos petits-enfants ou vos petits-neveux, ils sauront le faire. Sur Internet, vous avez accès tous les jours, non pas seulement à votre édition à laquelle vous êtes abonné, mais à toutes les éditions. Donc, si vous habitez à Strasbourg, si vous êtes natif d'Alpirche, vous pouvez même lire tous les jours l'édition d'Alpirche. Et en plus, vous avez aussi sur Internet cette édition bilingue, donc qui est accessible gratuitement pour les abonnés. Donc ça, c'est pour la partie bilingue. Mais il y a beaucoup de journaux bilingues. Alors, vous avez une question?
Oui, mais depuis que vous êtes regroupé avec le Crédit Mutuel, c'est une constatation. J'ai l'impression que la première partie, sur les 4 cahiers, est entièrement la même, pratiquement non pas en présentation extérieure, que l'ensemble des quotidiens, une partie quotidienne du groupe Crédit Mutuel. Est-ce que c'est juste ou pas?
C'est
pas la première partie. La première page,
c'est pas encore juste dans la proportion où vous le ressentez. Ça ne deviendra jamais dans la proportion.
C'est une grande partie et comme une.
Non, c'est pas vraiment une grande partie. Non, vraiment. Si vous voulez, il y a de temps en temps, il y a une page. De temps en temps, il y a une page. Il y a par exemple. Mais votre impression est plus fine, je vais vous dire pourquoi. Il y avait par exemple une page qui était l'interview de Sarkozy ou de Hollande, si vous voulez, qui était commune. Ça a été faite par un journaliste votre impression provient du fait, si vous voulez, que tous les journaux, pour le premier cahier, se nourrissent de plus en plus à la même source, et pas seulement ceux du Crédit Mutuel, oui. mais tous les autres, oui. à l'AFP. Oui, hein. C'est-à-dire que plus aucun journal aujourd'hui n'a les moyens, si vous voulez, d'avoir ses propres journalistes à travers le monde. Hein. On n'a plus les moyens. Nous avons encore les DNA, mais on est les seuls du groupe, y compris au Crédit Mutuel. Nous avons encore un correspondant à Bruxelles, nous avons un correspondant à New York, nous avons un correspondant à Pékin, nous avons un correspondant à Berlin, mais nous sommes les seuls, les autres ne l'ont plus. On passe par l'AFP, ou par DPA, ou par Reuters, etc. Et en fait, les journalistes, si vous voulez, réécrivent, hein, ou remettent à leur source, ou reconditionnent, selon le terme que vous voudrez, une information qui vient de part. Mais c'est une question de moyens. Par contre, entre votre impression qui n'est pas juste aujourd'hui et ce qui va se passer demain, va devenir un peu plus juste. Parce qu'il fait partie du projet de réaliser un certain nombre de pages en commun sur ce qui est, correspond chez nos premiers cahiers. Mais pour la plupart des autres journaux, il y a un problème, si vous voulez, pour nous, parce que nous avons un premier cahier où ce que nous appelons des informations générales très développées. Alors que la plupart des autres journaux du groupe, Le Progrès, Le Dauphiné, ont deux ou trois pages. Là, où nous en avons 7 ou 8, si vous voulez, tous les jours. Donc on n'est pas tout à fait sur les mêmes. Et ça, nous, on ne va pas y renoncer. Enfin, tant que moi, je serai là, on ne va pas y renoncer.
Je voudrais faire une dernière observation, si vous permettez. Quand vous lisez les journaux, oui. vous voulez parler. Midi Libre, on lit ce matin. Mais si c'est un cafouillis, on ne trouve rien. Chez vous, c'est clair. Premier, deuxième, non, c'est pas une critique, c'est conservateur.
Non, mais vous savez, en même temps.
Les gens ne voient pas qu'ils ne les ont pas copiés. Voilà.
En même temps, oui, mais pourquoi ils ne les ont pas copiés? Parce qu'un journal est aussi un produit. C'est aussi un produit culturel, si vous voulez. Et les journaux que vous citez ne marchent pas beaucoup plus mal dans leur région respective que les DNA. Parce que les gens ont toujours été habitués à ça. Hein. Et vous savez, nous on a jamais aimé les photos de. Et c'est pas toujours bien pour nos lecteurs. Les photos d'anniversaire de mariage, les photos de. Etc. Alors que les journaux que vous citez, ben, ils passent et ça fait vendre du journal.
S'il vous plaît. Un monsieur là-bas au fond.
Oui, tout à monsieur, en priorité.
Ah bon? Non, c'est à vous. C'est à vous.
Et après, ça sera vous, madame.
Moi, j'ai juste une question que vous avez soulevée, c'est spoliation 14-18.
Vous pouvez parler un peu plus fort.
Vous avez parlé de spoliation 14-18.
Oui.
Moi, je vous assure que c'était une autre spoliation, c'est-à-dire que le séquestre. Et si qui ont réussi à acheter les DNA, c'est grâce au séquestre. Et il n'y a aucun historien, même de l'université, qui a réussi à écrire un livre d'histoire sur le séquestre à Strasbourg. Et parce qu'on dit tout ce qui est, il était à la banque, c'est la petite histoire là. Il était à la banque, il a vu les, il voulait investir à Strasbourg, et puis il a dit tiens, mais c'est juste en face. Ben, ils ont acheté les DNA. C'est un peu l'histoire, parce qu'il y a la banque juste en face.
Qui est en face?
Non, la banque. Il y avait la banque, la populaire, je ne sais pas laquelle qui était.
Non, c'est le Crédit Industriel qui est en face.
Le Crédit Industriel, mais à l'époque, en 1918, 1919, vous voyez, on dit que Kidel était arrivé, il faisait le chèque alors qu'il avait en vue les DNA en face.
Oui, je ne comprends pas très bien ce que vous voulez dire.
Non, mais je veux dire, donc vous avez parlé de spoliation.
Oui, c'est ça, oui.
D'accord. Mais moi, je vous dis qu'après la guerre, en 1919, tous les fonds qui étaient allemands, ils ont été mis en séquestre. Donc, qui est, comment, à qui il a acheté les DNA? Pas au propriétaire, mais au séquestre.
Non, bien sûr, oui,
c'est ça. Donc, c'est pour ça que moi, je vous permets de vous dire
qu'il
y a une double spoliation, ça veut dire que l'Alsace a été spoliée du séquestre.
Amendement accepté, votre demande.
Je vous remercie.
Il y a encore une question. Madame.
Oui. Moi, je voulais vous demander, quand un membre de notre communauté commet une faute, il y a marqué juif. Or, je n'ai jamais vu dans aucun article un voleur, un violeur, c'est un protestant, c'est un catholique ou c'est un musulman. Comment ça se fait?
Écoutez, d'abord, je ne pense pas et j'espère que ce n'est pas aussi systématique.
Ah, je peux vous donner deux exemples. Hein.
Que vous pouviez me donner l'un de l'autre exemple, je le reconnais. Et c'est pas bien, c'est lamentable. Hein. J'ai rencontré au premier étage le grand rabbin il n'y a pas longtemps au sujet d'une affaire de ce type-là.
C'est pas
bien. On a parlé, c'est pas quelqu'un qui avait des difficultés, je ne vais pas revenir dessus, dans le domaine immobilier à Strasbourg, membre de la communauté. c'était pas une précision indispensable et nécessaire. Elle était profondément maladroite.
Oui, mais ça s'est produit les derniers
15,
pardon, 2-3 mois.
Vous connaissez mon nom, chaque fois que vous en avez une, vous me l'envoyez. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus, mais au moins on essaiera de faire en sorte qu'il y en ait de moins en moins. Et il n'y a pas de raison de faire ça, parce que c'est vraiment pas notre vocation. C'est pas notre histoire, c'est pas nos valeurs, c'est pas notre vocation. Soyez des imbéciles, on en a malheureusement partout, mais il faut les chasser. Vous avez bien fait de le dire, madame. Oui, oui, rapidement, hein, parce que
j'abonde un petit peu dans le sens de madame, sans aucune animosité. On voit très souvent dans les rapports de procès, on voit le nom du procureur, de l'avocat. Ce qui n'intéresse personne, ce qui intéresserait peut-être les lecteurs, c'est la consonance du nom du coupable, même si la décision n'est pas définitive. Alors, ma question, est-ce qu'il y a une pression pour ne pas faire apparaître des noms non alsaciens?
Non, si vous voulez, il y a en matière de publication des noms dans des contextes juridiques ou enfin, ceux que vous évoquez, qui sont tout à fait clairs, hein, c'est-à-dire qu'à partir de certains... À certains stades, on cite la personne concernée, et jusqu'à un certain stade, on ne la cite pas. Hein, ça sont des règles très claires que normalement tous les journalistes ont. Ceci étant dit, et rare manum est, je ne veux pas dire qu'on n'est pas mauvais, mais on n'est pas parfait dans ces choses-là. Hein, même chose que je disais la fois précédente. En tout cas, c'est ce que disait Aurore Rabin, soyez sûr, il n'y a aucune, et là je suis bien passé pour le dire, hein, il n'y a aucune directive de quelque nature qui consiste à dire dans tel cas on dit ou on ne dit pas. Hein. Après, c'est des maladresses, des bêtises humaines, comme il y en a malheureusement parfois.
On a fait un courrier au sujet du Grave de Mulhouse l'année dernière, de votre journaliste qui a fait le reportage n'a pas répondu.
Écoutez, vous me le donnez, vous le transmettrez, je vous le
donne. Donc, vous dites.
Mais c'est pas non plus, il faut pas penser que c'est systématiquement dirigé contre une communauté. On est toujours quand on est concerné par quelque chose, on est toujours agressé. Des courriers, vraiment, j'en reçois tous les jours, et c'est une partie de mon occupation, et ils ne sont heureusement pas que dans ce domaine. Mais en tout cas, tant que je pourrai, et je dirais j'ai des preuves par ailleurs, je fais ce que je pourrais pour que ces choses-là se produisent le moins possible.
Être objectif, c'est tout ce qu'on demande.
L'objectivité est un sujet qui mérite que
notre... La meilleure preuve de sa sincérité, c'est qu'il est là aujourd'hui devant nous. Et nous remercions très sincèrement. Oui.
Il a mal au bras depuis
longtemps.
Oui.
Et
vous
j'ai deux petites questions. J'aurais voulu savoir le rapport exact entre le Crédit Mutuel et le groupe EBRA. Donc, parce que, bon, moi, je suis... mutualiste, quoi. J'ai un compte en banque au Crédit Mutuel, comme beaucoup de gens en Alsace, et je remarque qu'on n'a jamais demandé l'avis des mutualistes, quoi, hein, concernant les opérations de Monsieur Michel Lucas. Ça, c'est la première question. Deuxièmement, moi, j'ai quand même une certaine crainte, parce que vous avez bien montré, bon, la mutualisation, hein, bon, déjà dans le premier cahier avec l'AFP, mais on voit même maintenant quelques articles qui viennent d'un journaliste d'un autre journal du groupe EBRA, et on peut se demander si, à part les choses vraiment ultra-locales qui nécessairement doivent être faites en bas, quoi, on ne va pas finalement mutualiser tout, et entre autres, j'ai des craintes pour l'Alsace et les DNA, surtout dans la région de Colmar. Est-ce que l'Alsace va tenir le coup? Je ne sais pas, parce que ça fait beaucoup de gens. Et y compris, je me dis parfois, c'est peut-être un peu exagéré, mais bon, vous excuserez ma formulation, on avait la Pravda en Union soviétique, est-ce qu'on ne va pas avoir une Pravda en régime capitaliste?
Écoutez, ça c'est... Je ne veux pas répondre à votre question, papa, je ne veux pas répondre, mais en 30 secondes, ce n'est pas possible. Bon, je vais essayer quand même. Et rapidement, sur le premier point, je n'ai rien à dire. Ça, il faut demander à M. Lucas. Hein. Et je sais que j'étais à l'Assemblée générale du Crédit Mutuel vendredi, j'ai discuté avec des gens qui étaient autour de moi. Il n'y a pas beaucoup de mutualistes, y compris dans ses collaborateurs les plus proches, d'ailleurs, qui ne sont pas mutualistes ou qui le sont, mais qui sont en plus ces collaborateurs qui comprennent ce que le Crédit Mutuel est venu faire dans la presse. Bon, ça, il faut les demander à lui. Que l'avis n'ait jamais été demandé, ça c'est tout à fait clair. Après, M. Lucas, qui a à se justifier régulièrement de votre question auprès de collaborateurs, auprès de nos journalistes, qu'est-ce qu'il répond? Il dit, j'ai de l'argent et j'investis dans des entreprises qui sont en difficulté, qui risquent de disparaître. Donc, où est le mal?
Où elles vont être achetées par l'étranger, il dit aussi.
J'allais dire. Deuxième chose qu'il dit, et c'est vrai, j'ai vécu ça en 97, lors de l'une des ventes des DNA, il y avait sur le coup la BATS, WATZ, qui est un groupe de presse allemand. Plus récemment, il y avait un autre groupe allemand qui s'était intéressé au DNA. Bon, maintenant, est-ce que ça c'est une raison suffisante? Ça c'est une autre affaire. Ce sont des choses qui peuvent donner en justification, si vous voulez, hein, qu'il n'y a pas de... Maintenant, sur l'autre question, vous savez, on n'a pas intérêt à tuer la chose dehors, hein, il est quand même aussi quelque part, même si le mouvement mutualiste n'est pas capitaliste au sens strict du terme, il n'a pas intérêt à perdre de l'argent, si vous voulez. Hein. Donc, je veux dire, modifier profondément la ligne politique, la ligne éditoriale des DNA d'abord, il se heurterait quand même à des personnes comme moi et à d'autres. Je veux dire, on a quand même... On a beau l'air innocent comme ça, mais on n'est pas des salauds. Hein. Enfin, je veux dire, on a des convictions. Hein, et on a un certain nombre de valeurs. Enfin, qui, en tout cas, pour moi, à mon âge, c'est ce que j'ai dit quand on m'a proposé. Je n'ai pas demandé la direction des DNA, on m'a proposé. Et j'ai déjà dit deux fois à M. Lucas. Je lui ai dit, si je ne vous conviens pas, vous me le dites, je ne vous ai rien demandé. C'est vous qui m'avez nommé. Hein. Donc, vous me le dites. Si j'ai 65 ans dans quelques jours, hein, donc... Inch'Allah. Hein. Donc, si vous voulez, je me sens très libre et très serein. Ceci étant dit, je ne cherche pas le conflit. Moi, si vous voulez, j'étais dans cette entreprise avant lui et avant eux. C'est une entreprise que j'aime profondément. Et j'ai envie qu'elle continue le plus longtemps possible. Si, alors je saute rapidement vers le bout de votre deuxième question. Si dans 10 ans, il y a encore ne serait-ce qu'un seul journal en Alsace, c'est un peu brutal ce que je vais vous dire en réponse à votre question. Mais j'estimerai qu'on a bien fait notre boulot. Parce que le risque aujourd'hui, c'est que dans 5 ans, il n'y en ait plus aucun. Si vous voulez, si j'arrive à faire en sorte que cette année et l'année dernière, les DNA sont encore rentables, est un bien grand mot, hein, dégagent 5 millions, allez, sur 100 millions, hein, 5%, il y a des secteurs où on fait mieux. Hein, je pense qu'il y a des investissements, il y a, etc. Si vous voulez, si j'arrive à ce résultat, c'est pas parce que l'entreprise se développe au sens premier du terme, c'est parce que j'arrive à réduire mes coûts tous les ans, en conséquence. Quand je suis arrivé au DNA, en 1991, nous étions 1200. Nous sommes encore 650 aujourd'hui. Et on sort encore un journal tous les jours.
Avec des départs à la retraite ou des licenciements?
Je n'ai jamais connu aucun licenciement, y compris des gens qu'on aurait mieux fait de mettre à la porte. Mais bon, il n'y a jamais eu de licenciement. C'est toujours, si vous voulez, par... Vous savez, pour produire un journal avec les techniques anciennes de production, il fallait 300 personnes. Aujourd'hui, avec 100, c'est largement suffisant. Hein. C'est comme ça, les évolutions technologiques. C'est pas propre à mon métier. Il y a d'autres métiers. C'est malheureusement comme ça. Mais après, qu'est-ce qu'on veut? Quel est l'objectif, si vous voulez? On veut qu'un journal continue à paraître parce qu'on estime que ça fait partie de notre paysage démocratique. Même s'il est imparfait, même s'il est injuste, même s'il traite de temps en temps des gens de la manière dont ils ne devraient pas, etc. Il ne faut pas qu'ils le fassent, on fait en sorte qu'ils ne le fassent pas, mais c'est bien qu'ils continuent à vivre. Hein, parce qu'ils provoquent aussi un débat, ils participent quelque part à la réflexion, etc., etc., s'il vous plaît. Donc moi je crois en ça. Hein. Mais vous savez, je disais hier, je suis en pleine négociation salariale, hein, j'ai des gens qui me réclamaient 5% d'augmentation. Entre parenthèses, ils ont payé 14 mois. Ils ont payé 14 mois. Les salaires moyens sont. On peut les afficher sur la place publique. On n'a pas de honte à avoir. Et avec les RTT, tous mes collaborateurs ont l'équivalent de 60 jours de congés par an. Hein. 35, 7 fois 5, 7 semaines. 3 jours de congés mobiles et 22 journées de RTT. Hein. Alors, qu'on ne me raconte pas qu'on est malheureux, si vous voulez, alors qu'il y a des millions de personnes qui n'ont pas de boulot. Donc il faut arriver à notre époque à relativiser les choses. Je leur disais hier, les périodes bénies où les salaires augmentaient tous les ans de 3, 4, 5%, c'est fini. Il faut vous mettre ça dans la tête. Hein. On va tous être obligés de partager davantage, qu'on le veuille ou non. C'est comme ça. Il n'y a pas d'autre solution. Alors je tombe dans un discours politique, je m'arrête.